rejoignez-nous.
Ah oui, j'attendais une affaire. Enchantée.
Voulez-vous qu'on aille proche de votre...
Oui. Je dis votre. Comme si vous l'aviez fait.
Il y en a une de l'autre barre aussi.
C'est vrai?
Oui, il y en a une de chaque côté.
Oui, en fait, ben, ce qui est encore très bien visible, là, c'est le nom de la compagnie, c'est Aird & Son Limited Boot and Shoe Manufacturers, le MFRS, c'est ce que ça veut dire, là, le Manufacturers.
Tout ça, peinture, armure, coin, Ontario.
Et, entre Saint-André et... je réussis
Labrec.
Pas. Labrec, c'est ça. Voilà. Petite rue Labrec, c'est ça. Donc... ouais, qui doit remonter. Je sais pas, j'ai trouvé une photo de celle-là quand elle était encore assez belle dans les années 70, je pense. Mais je sais pas exactement depuis quand la compagnie s'est installée là. Mais on voit donc que tout se passait en anglais.
Voilà.
Entre autres choses.
On dit que les murs ont des oreilles. Mais quand on les regarde comme il faut, on voit qu'ils ont aussi beaucoup de choses à dire. Vous écoutez dans le champ lexical, l'émission qui tourne autour du mot. Et cette semaine, on tourne autour de murs.
Moi, j'ai des souvenirs, enfant, quand j'allais magasiner avec ma mère dans ce qu'elle appelait, elle disait, on va aller magasiner dans l'Ouest. Là. Ça voulait dire pour elle aller chez Eaton, Morgan, Simpson. Et puis que tout se passait en anglais, qu'on ne pouvait pas se faire servir en français. Réjeanne Bouger. Je suis écrivaine, auteure donc de l'ouvrage qui a pour titre « Sur les murs d'un Montréal qui s'efface ». Bon, j'ai grandi dans le courant des années 60, donc, et cette publicité-là, peut-être, ce genre de publicité-là sur les murs était vraiment très, très populaire dans les années 50. Il y avait parfois des compagnies qui devaient payer probablement pour pouvoir afficher comme ça sur un mur. Il y a Nugget Shoe Polish qu'on voit encore bien là sur Saint-Laurent, près de Villeneuve. On peut penser que peut-être c'est ça, ou même Coke qui placardait beaucoup, beaucoup de maisons. C'est assez fascinant quand on voit des... J'ai fait une recherche photographique quand même dans les archives de la Ville de Montréal pour trouver des pubs dans les années 50-60. Il y en a, là, c'est frappant, c'est sur le devant de la maison que Coke... C'est comme si votre porte d'entrée, mais tout est placardé sur de la brique, là. Alors, j'imagine que les gens payaient quand même pour pouvoir, comme ça, avoir le droit de s'étaler sur la brique d'un privé, d'une maison privée, quoi. Mmh.
Mais, donc, moi, j'aurais pu choisir d'avoir un gros Coke sur ma maison pour payer le gros prix.
Peut-être. Oui, le gros prix. Oui, faut voir, je sais pas à l'époque combien ils pouvaient payer. Puis peut-être qu'il y avait aussi, aujourd'hui, Coke, ça pue tellement d'auréoles, mais dans les années 50-60, c'était une compagnie. Moi, j'avais un oncle qui travaillait chez Coke. Puis on était très fiers de ça, d'avoir les verres Coke, tout ça. C'était, il y avait du prestige de rattacher à Coke. Donc, ça avait peut-être même quelque chose d'un peu prestigieux, c'est ça, d'avoir ça, alors qu'aujourd'hui, ce serait plutôt le contraire. Là. Ce qui avait frappé mon imagination, c'est de me dire combien il y a de publicité emmurée dans la ville qu'on voit pas parce que... Et quand j'ai eu le vraiment, on s'est dit, mon collègue photographe et moi, c'est il y en a qui réapparaissent comme ça à cause d'incendies, de gros incendies. Les murs tombent, les briques tombent. C'est d'ailleurs, c'est elles qui sont les mieux conservées parce qu'elles étaient vraiment deux murs de briques. Et souvent, elles sont de couleurs extraordinaires. Et celle qui était apparue, là, la Old Chum, qui était 9e avenue Masson, je pense, qui était d'un bleu extraordinaire. C'est une compagnie de tabac. Et maintenant, elle a été à nouveau emmurée parce qu'il y a eu une construction. Alors, il y a comme ça, et tu te dis, bon, dans 100 ans, quand il y a des gens... pour une raison ou pour une autre, le mur va encore tomber, puis il y a des gens qui vont redécouvrir ça dans 50 ans, dans 60 ans. C'est une espèce d'archéologie urbaine qui est imprévisible, c'est-à-dire on ne sait pas quel mur va tomber, qu'est-ce qui peut apparaître. C'est sûr que quand elles sont emmurées, ça, on le voit peu à peu, mais il y a une espèce de découverte comme ça qu'on peut faire. D'ailleurs, mon collègue photographe m'a dit « Ah, il faut que je t'amène Jean-Henri Garnier dans ce coin-là. » Il m'a dit « Il y a eu un incendie. Il y en a eu une extraordinaire en couleur qui vient d'apparaître. On n'est pas... Bon, le livre est fini, tout ça, mais je suis juste curieuse d'aller la voir. » Moi, je dis toujours toujours que l'émotion qu'on a devant ces espèces d'artefacts, c'est de justement savoir que c'est en train de disparaître. C'est ça qui fait qu'on est saisi d'une émotion. C'est que, bon, on se dit, ben ça s'efface toujours plus. À un moment donné, on ne verra plus rien. D'où l'émotion qui nous étreint, à mon avis. En fait, c'est aussi, on ne pérennise plus. Les choses ne durent pas dans le temps comme elles duraient dans le temps dans les années 50. Il y a beaucoup de ces pubs-là, qui, même sur lesquelles on pouvait voir le prix des objets, ce qui est absolument impensable aujourd'hui, c'est-à-dire quelque chose qui se vend à 1,50 $, dans 2 mois, ça peut se vendre à 1,75 $. Mais si tu l'as peinturé sur un mur de briques, c'est parce que tu présumes que pendant quelques années, le prix va rester le même. Donc, il y a notre rapport au temps qui a complètement changé, et la vitesse de consommation, tout ça qui fait que je pense qu'il y a ça aussi, là, les gens ne s'installaient plus avec le même sens de la propriété, puis la prise sur le temps est complètement différente. Mm-hmm. Donc ça a dû y être pour beaucoup aussi, l'accélération de tout.
C'est quoi les plus belles à Montréal?
Les plus belles, bien, les deux plus belles là, qui sont faites, il y en a deux qui sont faites en murée, là, comme je vous disais, là, la Old Chum et puis la Tourette's qui était complètement dans l'ouest de la ville.
Vous avez eu l'occasion d'y prendre en photo?
Oui,
avant
oui. Dans le livre qu'on a, on les a prises en photo. Ça, elles étaient vraiment magnifiques. Deux pubs de cigarettes. Ça aussi, ça témoignait, surtout un tabac qui s'appelle Old Chum. Ça a quelque chose de complètement fou aujourd'hui. Le tabac n'est plus l'ami de personne aujourd'hui. Mon vieil ami, le tabac, là, c'est plus tellement un credo que les gens peuvent entonner. Donc, celles-là, elles étaient magnifiques. Elles ne sont plus là. Pour ce qui est de la couleur, il y a encore, dans le Vieux-Montréal, là, la Sauvegarde, Plage Jacques-Cartier, qui était une compagnie d'assurance, qui est jaune et verte, dont on voit encore les couleurs, qui est, ma foi, pas si mal. Il y en a beaucoup encore dans le Vieux-Montréal, mais la plus belle... Bien, ça dépend toujours de notre rapport aux produits aussi. Moi, j'aime bien... J'habite dans Châtelet-Maisonneuve, tout près de l'ancienne manufacture de la Parisienne. C'était marqué Lady, c'est marqué même encore Ladies Shoe High Class Style. Puis je me souviens que pour ma mère, effectivement, les souliers, la Parisienne, c'était vraiment le chic du chic. Et comme j'ai eu un oncle qui a travaillé dans des manufactures de chaussures, et c'est même un des premiers textes là, que j'ai fait quand j'ai pensé à écrire des choses là-dessus. Donc, je les aime beaucoup, celles-là, parce que j'ai un rapport plus émotif avec ça. Je ne sais pas que c'est spécialement beau sur le plan esthétique, mais ça me parle davantage. Donc, je pense que chacun, puis je m'en suis rendu compte en publiant le livre, parce qu'il y avait même des gens qui m'appelaient puis qui me disaient « Mais connaissez-vous celle-là ou avez-vous vu celle-là? Ça fait 20 ans que j'habite devant celle-là. » Alors, je me suis rendu compte que tout le monde dialoguait avec ces pubs-là. Il y a énormément de gens qui voient ça, qui entretiennent quelque chose avec ça, et leur préféré, ça diffère selon le background de chacun. Là.
Est-ce qu'on peut aller voir leur mur?
Ouais,
oui,
oui. C'est pas mal la même chose.
Ah, c'est la même, oui, la même c'est... compagnie.
Oui, c'est Heard and Son. Je sais pas, ils s'étaient placardés des deux côtés. Ils voulaient pas, je sais pas, manquer leur coup, je sais pas quoi.
Mais on voit que le bâtiment est quand même très vieux.
Ah
aussi,
oui, oui.
Ah ben oui, c'est la même.
C'est la même qui est juste un peu plus... Elle est plus blanche, elle est plus... En bas, on voit, mais là, on le voit... c'est difficile là devant, mais Sawyer, on voit que ça, c'est...
Le nom de l'artiste?
Oui, c'est le nom de l'artiste ou de la compagnie. Il y a Ash Limited qui en faisait énormément aussi. Oui, c'est la même chose. Ouais. Voyez-vous, c'est comme s'il y avait N. Gagnon, propriétaire, ah, oui. P.R.O.P.
Mais c'est pas en noir.
Non, c'était... Si ouais, alors, blanc, ouais. C'était peut-être, je sais pas, Norbert ouais. Gagnon, propriétaire de ça, donc c'était un nom francophone.
Ah, un peu de francophonie pour...
ouais,
ici.
Ouais, ouais. Une trace francophone.
Vous écoutez. écoutez dans le champ lexical. Et cette semaine, le mot, c'est mur.
C'est quoi ta run aujourd'hui?
Ben, j'ai une palissade à l'UQAM. Sinon, j'ai du centre-ville ouest, là, dans le coin d'Atwater. Je m'appelle Gabriel Eliarvé et je travaille pour Publicité Sauvage.
Depuis combien de temps?
Depuis un an et demi, plus ou moins.
Sur la maison hantée?
Sur la maison hantée.
C'est quoi qu'il faut que tu prépares le matin?
La colle et les affiches.
C'est toi qui fais de la colle?
Ouais, ben c'est de l'eau puis la fécule de patate, fait que...
Ok.
Comme ça gondole, on arrache pour ça. Ça soit beau et propre. Fait que je t'explique le principe. Tu prends ton balai, tu mets de la colle sur le mur, tu mets une affiche. Alors, c'est une pub. Je la trouve très belle celle-là, je l'ai festival jamais lu. C'est pas pire, non?
Ouais, c'est bien. Faut que tu prennes une photo à chaque fois?
Ouais, bah c'est les photos en fait qu'il envoie aux clients là.
Ok.
Là, je remplis mon petit rapport. C'est le côté bureaucratique de la job. Ok, on est à ça. 15 affiches, ça va bien.
Ouais.
On va faire une petite maison abandonnée.
Petite maison abandonnée?
Ouais.
Et où?
C'est sur Lambert Clos, en arrière là, du forum.
Comment ça marche dans le fond? Est-ce que. Qui trouve les nouveaux emplacements?
Ben, c'est... Soit c'est nous quand on se promène, on envoie une, on le dit à nos boss puis ils nous envoient l'affaire, ou c'est les palissades qu'on construit puis tout. Fait que c'est souvent des chantiers de construction, des maisons abandonnées puis tout. Fait que si on envoie une, ben on l'affiche puis. Ben la loi municipale dit qu'on peut afficher tant qu'on n'est pas. Tant qu'on nous avise pas explicitement de pas le faire. Là, soit par un avis écrit ou si le propriétaire ou le contracteur de plus afficher, on n'affiche plus, mais en théorie c'est légal tant qu'on se fait pas dire de sacrer
de
notre camp.
Aller.
Ouais. On n'a pas plus le droit qu'un autre, n'importe qui peut le faire, c'est juste que nous on a plus de. La compagnie est plus grosse, fait qu'il y a plus de moyens, fait qu'on est là plus souvent, fait que s'il y a d'autres affiches, ben on les recouvre puis tout.
Beau panneau?
Beau panneau. Tu vois comme ça la petite marche mondiale à marijuana, c'est la compétition qui vient de se mettre par-dessus les nôtres.
Ouais. Plus d'autres compétitions par-dessus.
Exactement.
Ouais.
Okay.
Ça joue dur?
Ça joue très dur. Nous, après ça, on leur coupe, tu sais, on vient remplacer ce que...
OK.
Dès que c'est couvert, on met ce qu'il y avait en dessous à l'origine pour que ça dure la durée du contrat, qu'il y a l'exposition, la durée du contrat.
Ouais, OK.
Tu sais, des fois, c'est complètement ridicule. On arrive à une palissade, puis il y a un gars de notre compagnie qui est là, qui met ses affiches. Puis là, on le regarde, on attend qu'il ait fini, ils prennent ses photos, puis après ça, on arrache ses affiches, puis on met une autre. C'est complètement
ridicule. Ouais. Est-ce que vous faites souvent... interpeller sur la rue parce que les gens en général savent pas vraiment c'est quoi la réglementation.
Ouais, on se fait souvent, surtout les contracteurs, ceux qui gèrent les chantiers, hein,
mm-hmm.
qui des fois le prennent mal un peu, mais on est pas là pour se chicaner nous autres, fait que
ouais.
Si ils disent de s'en aller, on s'en va. J'espère, il y a beaucoup de trucs un peu absurdes dans beaucoup de compagnies ou de. Mais tu sais, comme là, tu vois, on vient de rouler, je sais pas, là, 15 minutes. 15 ans pour aller poser, on va mettre 8 affiches dans un coin très peu achalandé. En tout cas, tu sais, il y a tout cet aspect-là aussi de... C'est pour ça que le vélo, ça rattrape un peu ça.
C'est quoi le building ici? C'est des appartements qui a plus.
Je sais pas, ça a l'air d'une école, je dirais.
Ok, fait que c'est abandonné depuis longtemps.
Ouais.
On est au centre-ville, sur la rue Sainte-Catherine, au coin Saint-Laurent. Et c'est comme un petit chantier de construction sur le trottoir. alors que Mathieu et Joël de Publicité Sauvage sont en train de monter des palissades, des murs autour de l'ancien romance pour pouvoir avoir un support pour leurs clients.
Mathieu Caron, CCP, donc Construction et Clôture Publicitaire. CCP est une sous-compagnie de Publicité Sauvage. Donc, on a eu la permission de venir construire des palissades, en fait, de, comme on dit dans le métier, de venir pimper, mais je dirais réactualiser les murs, là, pour être plus poli.
OK.
Fait qu'aujourd'hui, c'est ça, on vient mettre ça plus beau, plus propre. C'est le quartier des spectacles, hein. On veut que ça soit propre maintenant.
Les contacteurs, tout ça, ils paient pas pour ça. C'est votre initiative,
oui,
pour pouvoir faire votre travail.
Exactement. Je m'appelle Joël.
Toi, t'as fait les deux, Joël? T'as fait afficheur et...
Ouais, j'ai fait afficheur pendant 2 ans.
OK.
Puis ça fait, je dirais, presque 1 an qu'on vient sur la construction.
OK. Tu fais plus d'affichage?
Je vais recommencer cet été, parce qu'on va commencer à afficher à vélo. Donc, c'est un projet que, d'ailleurs, moi et Mathieu, on supporte. On est dans la confection des remorques à vélo. Je vais recommencer pour garder la forme cet été.
C'est nouveau, ça?
C'est, oui, ça a commencé l'année passée. Il y a toujours le stress du stationnement, des piétons, tout ça est pas mal évacué avec les vélos. Là, on peut se concentrer pas mal plus sur quelque chose de plus agréable en ville là, pour le transport.
Go!
Okay. Tant qu'à avoir une ville avec des murs de béton ou des murs gris, bien, vaut mieux avoir de l'affiche et de la belle affiche. C'est ça qui est inspirant, t'sais. Puis aujourd'hui, bien, les gens investissent beaucoup dans le marketing, beaucoup plus que dans l'importance de stimuler les gens. Tandis que dans le culturel, bien, il y a encore ce sens-là. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, Joël?
Est-ce qu'on
pense
une seconde?
Ouais, pense.
Je vais me pisser un débarquage, ça va aller bien. Ça replace toujours les idées, mais c'est un débarquage.
Il y a eu le 25e de PS l'année passée, puis on a fait des recherches sur certains trucs, mais une publication qui est sortie, puis... En faisant des recherches, on a trouvé des peintures de 1640, je pense, qui étaient, en tout cas, puis qu'on voyait, c'était des peintures à Paris. Puis sous une construction d'une cathédrale, ben, il y avait exactement les mêmes trucs, les palissades. Puis ben c'était des affiches qui étaient là. Fait que de retrouver encore ces moyens de publicité-là, il y a vraiment quelque chose de ben pas pur, mais de vraiment authentique derrière ça.
Il va y avoir de la neige, fais pas ça!
Comment?
Il va y avoir de la neige, là!
Il va y avoir de la neige!
Les compagnies de pub qui essaient vraiment d'avoir des trucs révolutionnaires, là, ils mettent des affaires sur les palissades que tu peux décrocher. Mais tu as quand même encore les affichistes. Je donne un exemple de Lino qui est connu en ville à Montréal. Puis il va toujours avec une affiche, souvent 24-36, qui est le format vraiment standard. Il va vraiment plus avec quelque chose de plus simple, mais de hyper efficace en affiche. Fait qu'on sent vraiment le travail. C'est vraiment un travail artistique qui est derrière, puis selon moi, c'est le plus efficace.
C'est que ça habille une ville, en fait. C'est ça qui est vraiment important. Ça donne... je veux dire, tu regardes un passant quand on construit, là, whoop, il est dans sa bulle, il regarde, ah, tiens, quelque chose de différent, tu sais. Puis, ce qui est important de dire aussi, c'est que ça se situe sur une mince ligne. Mince ligne au niveau légal, mais mince ligne physique aussi. Je veux dire, c'est quelques pouces, quelques centimètres, mais qui donne toute une perspective sur plein d'autres choses. Puis ça, c'est, je pense que c'est important.
Cette semaine, le mot, c'est « mur ».
Moi, les murs, je ne prends plus ça à la légère depuis que mon ami Olivier Pellerin, qui est architecte, m'a parlé du mythe de la fondation de Rome. C'est Romulus et Rémus, deux jumeaux nourris par une louve dans leur tendre enfance, qui ont décidé de fonder une ville. Donc, Romulus commence à tracer le pomerium, une genre de tranchée qui délimite la ville, mais qui est en fait un sillon sacré qui la sépare du reste du monde. Rémus, son frère jumeau, pour se moquer de la faiblesse de la ville nouvelle, franchit d'un pas le rempart symbolique. Romulus le tue. La Rome intransigeante et infranchissable est née. Un fratricide à cause d'un mur. Ça a l'air que les murs qui entourent les villes sont plus importants que les autres et durent vraiment plus longtemps. Olivier Pellerin me parle notamment de Londres.
Londres avait été... Il y avait un tracé, finalement. On traçait, comme dans le mythe de Romulus à la base, les deux frères qui s'étaient chicanés et tout. Il y avait le tracé avec l'engin agricole rudimentaire, là, où on trace vraiment une tranchée partout autour et qui forme finalement l'enceinte virtuelle de la ville. C'est-à-dire qu'on délimite, ceci sera la ville, cela ne sera pas la ville. Et Londres, aujourd'hui, quand on parle de la city qui est le centre financier du monde, ce qui est fascinant, c'est que la city d'aujourd'hui a exactement, ou à peine, à quelques différences près, les mêmes dimensions et le même tracé que Londinium à la base. Ça, c'est particulièrement intéressant parce que, et même les six, je pense que c'est six portails qui menaient à Londinium, la ville romaine, sont encore aujourd'hui utilisés dans la nomenclature urbaine de Londres, et c'est encore de réels portails. C'est juste qu'aujourd'hui, on n'a pas une porte avec un arche, on n'a pas nécessairement une expression réelle de ça, mais on a, exemple, Cripple Gate, le nom, le terme Gate. Gate existe toujours, mais c'est un des points d'accès dans la ville. Et quand on regarde, on superpose des plans archéologiques et des plans d'aujourd'hui, il y a beaucoup de rues encore, d'avenues, qui sont exactement au même endroit.
Puis ça, on parle d'un horizon de temps de combien entre les deux tracés?
C'est 2000 ans.
Les murs marquent physiquement les limites, mais les murs sont aussi dans nos têtes.
Le mur, c'est pas seulement un accomplissement construit. Le mur, c'est quelque chose de psychologique dans la psyché sociale. C'est un concept à la base qui ensuite s'exprime par du construit. Le mur, à la base, quand les cités romaines étaient complètement emmurées, les cités romaines s'emmuraient elles-mêmes. On faisait une dichotomie profonde entre ce qui était intramuros puis extramuros. Ce qui était à l'intérieur, c'était le civitas, donc la civilisation, l'expression de la civilisation, l'humanité. Et puis, ce qui n'était pas civitas, extramuros, était donc rusticas, le rustique.
Sauvage.
La notion de mur, c'est dans le fond, c'est vraiment un corollaire des limites, des frontières que l'on se met. Des frontières psychologiques, des frontières de connaissances, jusqu'où on repousse nos propres limites. Ben, dans le fond, souvent, jusqu'où on connaît ou jusqu'où on prétend connaître, on va mettre un mur à cette limite-là. Mm. Et puis, l'expression banale de penser en dehors de la boîte, ben, quand on y pense, finalement, quand on est dans des boîtes continuellement, on emboîte tout, on a besoin d'organiser, on a un esprit rationnel, donc on organise. Une des manières d'organiser, c'est de trancher.
Le cauchemar de Berlin débute le 13 août 1961. Au petit matin, les Berlinois se réveillent au son des tanks et des marteaux-pilons. Le spectacle est désolant. La ville est scindée en deux par les barbelés. Les communistes décident de colmater la brèche par laquelle des millions d'Allemands fuient vers l'ouest.
On est en 1986 à la radio de Radio-Canada et le journaliste Claude Gervais présente un topo pour souligner le 25e anniversaire de l'édification du mur de Berlin.
On était quand même bien impressionnés.
Norbert Meyer a 11 ans à l'époque et il ne connaît pas encore sa chance d'habiter du bon bord à 500 mètres à peine du terrain où on est en train d'ériger le mur.
Et dans la classe où j'étais, il y avait des enfants qui venaient de l'Allemagne de l'Est, de Berlin-Est, mais ils n'étaient plus là. Par contre, il y avait des autres enfants qui venaient aussi de Berlin-Est qui étaient là parce que par hasard, dans la nuit de 12 août au 13 août, la nuit de samedi au dimanche, ils ont dormi chez les copains et comme ça, ils ont resté de notre côté. Ils ont laissé toute la famille à Berlin-Est.
À l'été 63, la visite à Berlin-Ouest de John Kennedy réconforte ses citoyens.
Il a touché au plus profond de chaque cœur berlinois quand il a dit que chaque homme libre dans le monde doit être un Berlinois et par conséquence, moi, Kennedy, moi aussi, je suis un Berlinois.
Ich bin ein Berliner.
L'espoir est mince de voir le souhait de Norbert Meyer se réaliser dans ce siècle-ci. Il faudrait la réunification des deux Allemagnes pour que le mur tombe, et ça, eh bien, ce n'est pas pour demain. Ici Claude Gervais à Montréal.
Non, ce n'était pas pour le lendemain, mais bien 4 ans plus tard, comme en témoigne ici Raymond Saint-Pierre, le 11 novembre 1989, soit 2 jours après la chute du mur.
Comme des milliers de Berlinois de l'Ouest, Renaud de la Pointe, journaliste à la presse, a franchi à Noël le mur qu'on a qualifié de mur de la honte. On sait que pour la première fois, les autorités communistes ont permis aux Berlinois de l'Ouest d'aller visiter leurs parents dans la zone orientale. Renaud de la Pointe nous dit ce qu'elle a vu.
On parle souvent du mur de Berlin, on se demande si c'est tout à fait, c'est vraiment un mur physique ou s'il s'agit surtout d'une barrière morale. Est-ce que vous pourriez nous le décrire un peu ce mur?
Non, ce n'est pas une barrière morale comme le rideau de fer, par exemple. C'est véritablement un mur, et un mur extrêmement lugubre, parce qu'il est formé de gros blocs de béton, et assez haut, et couronné de 3 ou 4 rangées de fils de fer barbelés. Et aux endroits où il y a des maisons, et des rues entières forment le mur. Et toutes les ouvertures, les portes, les fenêtres sont bouchées avec de la brique et je vous assure qu'elle est solide, elle peut résister à toutes les, même au dynamitage.
L'émission Dans le champ lexical vous revient tout de suite après ces quelques publicités.
En attendant, vous pouvez toujours aller devenir notre ami sur Facebook ou nous jaser ça sur Twitter au @danslechampl.
Si l'émission de cette semaine vous ennuie, allez sur notre site danslechamplexical.com et téléchargez une de nos émissions précédentes, potentiellement plus intéressantes. Vous pouvez aussi vous abonner à notre balado.
Vous êtes toujours sur les ondes de CIBL 101,5 FM. On vous revient dans quelques instants.
En train de faire quoi?
Je suis en train de faire mon nom, je suis en train de faire un lettrage, un piece, une pièce qu'on appelle en fait.
Je vais te poser une drôle de question. Pourquoi c'est. Est-ce que c'est un but de le faire pour que personne puisse comprendre ce qui est écrit?
Non, c'est plus le but de pousser la lettre à un niveau plus loin. Puis entre nous, on se comprend, puis même quand tu regardes bien, tu peux lire les choses. C'est juste de mettre beaucoup, beaucoup de design, puis à la longue, mais je veux dire, le monde dans le mouvement du graph reconnaisse facilement les styles sans même lire le lettrage. On va voir de loin un Zec ou n'importe quoi, puis facilement, tu vas pouvoir lire qu'est-ce que c'est parce qu'on se connaît.
Puis toi, ton lettrage dit quoi? C'est quoi ton nom de...
C-R-A-C, qu'est-ce que c'est écrit?
Comment
C-R-A-C.
Ce serait
C-R-A-C. S-E-R-A-C.
S-E-R-A-C.
Du collectif, quoi, c'est ça.
Vous écoutez Dans le champ lexical, l'émission qui tourne autour du mot. Et cette semaine, le mot autour duquel on tourne, c'est « mur ». Et pour la deuxième moitié de l'émission, on va s'attarder beaucoup aux murs qui nous parlent. Des murs qui nous parlent par le biais d'écrits qu'on a fait dessus ou de dessins ou de choses qu'on a écrites sur les murs. Et les gens qui font ça, généralement, c'est des graffiteurs. Des graffiteurs comme C-Rack du collectif K6A. Vous connaissez peut-être le nom, c'est un collectif qui compte des graffiteurs, mais aussi des rappers. Ils ont sorti un disque l'année dernière. Et donc, C-Rack, quand je l'ai croisé tout à fait par hasard, il est en train de faire un graffiti sur un mur. J'ai rencontré par hasard parce que j'étais en train de faire le tour d'une bâtisse qui est située. Et là, sortez vos crayons et papiers.
au 767 Saint-Rémy d'Ancien-Henri. Et je vous dis de noter l'adresse parce que ce building-là, c'est probablement le plus beau building de tout Saint-Henri. Pourtant, c'est un building désaffecté, c'est un building dans lequel il n'y a plus rien, mais les murs à l'extérieur sont tapissés de graffitis absolument extraordinaires, de couleurs vives, de formes variées. C'est vraiment, vraiment beau. J'étais donc en train de faire le tour de ce building-là quand j'ai croisé Sirac, qui faisait un graffiti en plein jour, ce qui est assez inhabituel parce que normalement, les graffiteurs font ça de soir, font ça la nuit, se cachent pour le faire. Pas lui. Lui faisait ça un beau jeudi après-midi, en plein soleil, en prenant son temps.
Ben, c'est moi et un de mes copains qu'on a demandé la permission en fait, pour peinturer le mur. Ça fait quoi, peut-être 4-5 ans là-dessus.
Okay. Est-ce que c'est vous deux qui avez fait tout le tour?
Non, il y a pas mal notre collectif, le KCXC en fait, qui est pas tout, c'est pas juste nous, mais c'est pas mal notre spot, moi et mon collectif. Fait que quand on vient, quand on veut, puis on a besoin d'un mur, ben on vient ici, puis on peint. Dans les endroits comme ça, habituellement, si les propriétaires sont cool, ben, puis il y a déjà des graffitis dessus, ben, ils sont tolérants, puis ils te laissent peinturer. Hein.
Puis quand ils vous laissent le temps, c'est plus beau.
Ouais, exactement. On a le temps de passer des belles journées, faire des petits barbecues ici, des fois on a une petite gang, puis c'est le fun. Donc il fait beau, you know?
Est-ce que t'en fais sur des murs où t'as pas le droit des fois?
Ouais. Le graffiti à la base, c'est pas mal ça. C'est l'illégalité de la chose. Après ça, tu fais pousser ça à un niveau, je veux dire, loin. Moi, j'aime bien les toits, les rooftops, puis les choses comme ça, vraiment en altitude. Ou ce que tu te fais pas voir par personne, puis ouais. Tu peux vraiment prendre ton temps à faire des choses, mais à la base, le graph, c'est illégal, fait que c'est sûr que le trail est de faire plus gros, plus haut, plus impressionnant, mais c'est pas mal ça le game. Là. Quand ça fait comme plus que 10 ans que tu fais ça, c'est comme. C'est, on peut dire pour la fille, puis les matchs, là, t'en as besoin, puis dès qu'il fait chaud et beau, ben, il faut que tu sortes avec tes peintes. Même si je suis tout seul, j'ai appelé du monde, le monde travaillait, je suis comme, ah, regarde, je m'en fous, j'ai pris mon sac, j'ai rempli de canettes, puis j'en viens faire ma pièce. Donc j'y vais.
Là, comme vous avez pas mal fait le tour de la bassiste, vous devez commencer à. Le faire par-dessus, ce que
ouais,
vous aviez
exactement. Oh, ouais. Quand il y a des choses comme qui étaient touchées, là, il y avait des petits barbeaux dedans, il a été abîmé, tu passes par-dessus, puis je veux dire, ça se fait naturellement, habituellement, dans les spots comme ça. Là.
Fait que vous êtes comme des graffiteurs, victimes des graffiteurs?
Ah, ben ça fait partie de la game, ça fait partie. Puis encore plus souvent, ça va être soit qu'ils vont se faire effacer aussi, il y a plein de murs comme en même temps. Les Turcos, ils vont le démolir, mais ils l'ont effacé. Puis là, c'est des bons spots à nous, puis souvent, on va juste être victime d'effaçage. Pas rapport parce que ils veulent juste comme payer puis avec son ami payer des cotes.
Alors que vous demander
des spots pretty much qu'on dérange pas personne, qu'on est en dessous d'un viaduc crasseux, mais ils vont aller buffer après genre 15 ans qu'ils ont jamais été buffés, ils vont décider de venir buffer. Fait que on a de moins en moins de place, fait qu'il faut veut pas, mais aller voir des buildings comme ça puis demander la permission. Juste pour être relax une fois de temps en temps puis prendre notre temps. Au-delà des barricades sur palissade, mes pages de rap graphent l'image sur mur d'un futur charitable. Tapissable, ma ville est habitable, abritable, radical, marginal et infatigable. Sont les grandes ambitions de chaque petit tag, chaque syllabe influent son habitacle. Le mariage maximal en mur et affichage. L'autre toute mouche en couleur, c'est comme pas mis de masque. Phénoménal et optimal lorsqu'on donne l'image. Le street et l'étoile, suit ton étoile, tout comme les mages. C'est le real thing. Le super toy sera un king ding. Pas du bling bling, mais une fraîche fresque sur son building. À tous les kings et les queens qui ont bill sing. Reste, reste vrai, c'est le real thing. Le real thing. Le real thing. Le real thing. Le real thing.
Bonjour, je m'appelle Pauline, je vis à Bruxelles et je suis actuellement à la gare centrale, dans un tunnel qui donne au métro, face à ce mur où il est écrit à la bombe noire cette phrase « Avez-vous parlé à vos enfants aujourd'hui ?» Et je la trouve intéressante et la première fois que je l'ai lue, elle m'avait surprise parce que c'est un couloir où tout le monde regarde ses pieds, marche très vite pour aller prendre son métro et où personne ne se regarde. Donc j'avais trouvé ça touchant.
C'est bien connu, les murs ont des oreilles. Mais si on est un minimum attentif à ce qui nous entoure, on sait que les murs font pas juste écouter, ils nous parlent aussi. Il y a des gens qui, quand ils voient une grande surface de mur avec rien dessus, ils peuvent pas se retenir d'écrire dessus et donc de faire parler le mur. Et comme aujourd'hui on s'intéresse au mot mur, notre correspondante en Belgique, Leslie Doumerc, a proposé qu'on fasse parler les murs pour vrai en allant lire les différents graffitis qu'on pourrait trouver dans les différentes villes au micro. On a poussé ça encore plus loin et on vous présente aujourd'hui un véritable tour du monde du graffiti. On a des graffitis à vous lire d'un peu partout dans le monde et on a commencé d'abord en Belgique, à Bruxelles, dans le métro et on va poursuivre encore une fois en Belgique.
Je suis à Bruxelles sur l'avenue Louise, en plein cœur de la place Stéphanie. Autour de moi, il y a des hôtels palaces ultra chics, des boutiques de luxe et cet arrêt de tramway où je me trouve actuellement et où j'ai déjà attendu un nombre assez incalculable de minutes qui m'ont laissé le temps d'explorer les alentours, d'avoir les yeux baladeurs et de remarquer en face un mur en biais, un peu caché mais pas trop quand même, et sur ce mur un grand dessin en noir et blanc à la craie d'une femme nue, allongée. Ça ressemble un peu au tableau L'origine du monde de Courbet, mais en moins gros plan quand même. Et cette femme nue allongée est tout simplement en train de se masturber. Imaginez-vous la scène, on est sur l'avenue la plus chic de Bruxelles et c'est comme s'il y avait un musée de l'érotisme à ciel ouvert. Voilà. Bang, le surréalisme belge a encore frappé. Et moi, comme il m'arrive assez souvent d'attendre à cet endroit et que je connais bien ce mur, maintenant je regarde les gens qui regardent le mur. Et c'est tout aussi intéressant.
Bonjour, je m'appelle Valérian, je suis photographe et je me trouve actuellement à Cochabamba, en Bolivie, devant le bureau de la Fédération des étudiants du secondaire, dont les murs sont recouverts d'une intéressante fresque. On y voit en fait des manifestants étudiants bâillonnés de rouge. Il y en a un qui tient un cocktail Molotov et un autre qui tient un drapeau carré rouge. Et devant un autre grand carré rouge, on trouve deux étudiants avec une pancarte réclamant une éducation gratuite et de qualité. Alors voilà, pays différents, mais même combat.
Alors moi, c'est Léonore Sokalkovi, je suis française et là, je suis au Cambodge. Actuellement, en face d'un mur, dans une zone un peu abandonnée, ça doit être un ancien mur d'usine qui fait 5 mètres de haut sur 12 mètres de long et qui est totalement peint. Au centre, on peut voir des formes un peu tentaculaires de poulpes peintes en rouge et des deux côtés, des formes en noir et blanc. Alors, c'est des dessins qui ont été réalisés par Piptar et Lisa Mam. Piptar, c'est un artiste khmer et néo-zélandais. Son inspiration, c'est plus des formes maori, noir et blanc, tribales. Et Lisa Mam, c'est beaucoup plus végétal, des figures féminines, des yeux, des femmes. On peut dire que ce graffiti-là est important pour le Cambodge parce qu'il y en a très peu. Si c'est dangereux de peindre dans la rue, on peut être arrêté. Et les street artists ne sont pas dans une culture d'opposition. Donc même pour peindre sur des murs abandonnés, il faut demander des autorisations. Donc on peut dire qu'il doit vraiment y avoir peut-être une douzaine de murs qui sont peints à Phnom Penh. Et celui-là, c'est un des plus grands, un des plus importants et un des plus réussis.
Corée du Sud, Séoul, avril. Alors là, je viens de quitter le Hangut Potkotukche, qui est le festival de fleurs de cerise coréen. Et je me dirige vers le quartier de Noksapyeong, dans le nord de Séoul. Et en marchant justement dans cette rue très calme, je découvre sur un mur blanc ce visage qui est dépeint en fleurs. On a cette tige qui forme parfaitement le visage, ce coquelicot qui modélise très bien une bouche et les feuilles plus en haut qui formeront les yeux. Une peinture vraiment très agréable à regarder, très douce, qui est justement un paradoxe dans ce quartier de Noksapyeong qui abrite pourtant le ministère de la Défense coréenne et ainsi que le musée de la guerre de Corée. Et c'est vrai qu'on reste coaché dedans parce qu'on y voit une image, on y voit un message aussi de la part de cet artiste qui voudrait dire que derrière justement ce conflit sud et nord-coréen, il y aurait quelque chose de beaucoup plus innocent, beaucoup plus agréable à regarder. Seoul, Hangok, Seoul.
Je suis présentement au coin de Bleury et... Non. De...
Maisonneuve-Bleury.
Je suis présentement au coin de Debleury et Maisonneuve. J'ai devant moi un très court graffiti qui va comme suit. Il dit « Je t'aime ». Bon, vous allez peut-être trouver que c'est un peu ordinaire. Bon, c'est joli, mais c'est un peu ordinaire. On en a vu partout. Ce qu'il y a de particulier, celui-là, c'est qu'on peut le voir partout où est Marie-Lune Oud Brisebois. Marie-Lune, il est où ce graffiti-là exactement?
Il est non seulement un peu partout sur les murs de la ville de Montréal, mais également entre mes deux omoplates en tant que tatou. Mon ancien copain, qui est aussi le papa de mon enfant, avait comme démarche artistique de peintre et de graffiteur de mettre un peu partout dans la ville des collants et des mots. Là où les gens se sentaient un peu seuls, des « je t'aime »,« je pense à toi »,« tu es belle ». Et lorsqu'on a commencé à se fréquenter un peu, il a voulu que les choses soient plus sérieuses et avoir un message un peu plus clair et s'est mis à faire des pochoirs « je t'aime » partout dans Montréal, là où je passais et sur ses toiles. Et c'est un message un peu clair, sauf pour moi. Donc, il a dû me faire passer par des circuits, me montrer « regarde, il y a des « je t'aime ». Que moi, je trouvais bien beau. Il a fallu qu'ils me disent que c'était pour moi, que c'était une déclaration d'amour, comme ça, pour moi, pour me faire réagir. Et j'ai commencé par trouver ça un peu intense, un peu gros. Les gens se sont mis à en parler dans le journal Métro, sur des blogs artistiques, un blog de New York qui répertoriait tous les « je t'aime »,« I love you » et ainsi de suite dans le monde. Une compagnie de production a été mise sur pied, les productions « je t'aime » pour faire des t-shirts et des tableaux, un peu tout ça. Donc, il a fallu que j'ingère tout ça. Mais une fois que je me suis moi aussi attachée à lui, j'ai fait moi-même des graffitis moi aussi. Là où il passait le matin pour démontrer mon amour aussi. C'était réciproque. Et donc, pas longtemps après, je suis tombée enceinte, on était en amour, et pour immortaliser cet amour très intense, je me suis fait tatouer un « je t'aime » sur la nuque.
Je m'appelle Élise, j'habite à Wollongong, en Australie. Je suis présentement aux abords d'une piste cyclable. C'est joli, ou du moins ça pourrait l'être. Il y a des grands arbres, puis un ruisseau. Mais ce sont vraiment les mauvaises herbes qui dominent. Et l'autoroute est à quelques mètres. C'est dans ce petit coin de paradis négligé, endommagé, que l'on peut lire, en lettres presque effacées, « God is dead », »,« Dieu est mort ».
Montmartre, premier dimanche du printemps, le soleil brille, je me balade vers Montmartre et là je vois sur un mur une inscription qui m'inspire. Mur blanc égale peuple muet. C'est contradictoire à ce qui se passe aujourd'hui parce que les jeunes ne sont plus muets, ils se mettent dans la rue.
On est au coin de Rosemont et de Lorigny. Il y a un graffiti en rouge qui dit « James Moore au bûcher ». Ça me semble un peu excessif en cette fin de soirée.
Clermont-Ferrand, avril 2013, je suis devant l'Hôtel Dieu. Immense bâtisse, 18e siècle en pierre de Volvic noire. Au loin, brumeux s'étend le Puy de Dôme et la chaîne des Puys. Sur cet hôtel Dieu dont les fenêtres sont barricadées par des planches de bois, des rois apparaissent, des rois avec des sceptres, des rois avec des godemichés, des rois avec des cheveux roses. Et tous ces rois, ces bouffons, ces reines sont comme un peu une métaphore d'un jeu de cartes mural qui s'étendrait sur les murs de cette bâtisse dont on ne connaît pas encore le futur.
J'entre dans les toilettes du Café Chéri, un bar cosmopolite à Paris. Un reste de papier hygiénique rose pendouille du dérouleur. Et des murs maculés de graffitis, de dessins et d'écritures. En voici quelques extraits. Lily plus Tom égale Big Love Forever. Check Cool Big Up 93. Saint-Saint-Denis Represents. Vive le mariage pour tous. 2013, année historique en France. Amandine, veux-tu m'épouser? Ta Sophie qui t'aime à la folie. Urgent. Cherche plan cul pour ce soir. Appelle, tu ne le regretteras pas. 06 12 34 65 76.
Je je suis présentement dans une des toilettes les plus puantes de Montréal, c'est-à-dire que je suis à l'UQAM, et sur un des murs blancs d'une des toilettes, quelqu'un a écrit au gros feutre noir une phrase que je vais vous citer telle quelle, et là, citer, ce n'est pas appuyer ou approuver, évidemment. Alors, ça va comme suit. Attention aux folles de Latina, malades et fiers de l'être. Pour eux, la méchanceté, c'est naturel, voire culturel. Fin de la citation. Il y a des petits guillemets autour de culturel. Et quelqu'un au studio Bic a encerclé la chose et a écrit « raciste ». Alors, on applaudit cette personne avec un crayon Bic. Ce qu'on peut remarquer également, c'est que dans ce genre de propos-là, raciste, foncièrement raciste, on pourrait s'attendre à ce que la personne fasse des fautes. Ce n'est pas le cas du tout. Il n'y a absolument aucune faute d'accord ou de pluriel dans le graffiti. Il y a même un « e » à la fin de « voir », donc « voir culturel ». Il y a un « e » qui est là, donc c'est vraiment un universitaire raciste.
Stéphanie Champagne, à Buenos Aires, sur la rue Billinghurst, qui se trouve plus ou moins proche du centre-ville de la capitale fédérale. Le graphe que j'ai choisi, c'est « Nada vale si hay un niño en la calle », ce qui veut dire « rien ne vaut s'il y a un enfant dans la rue ». Je crois que le graphe en dit déjà beaucoup, mais je l'ai choisi car que je trouvais que c'est une réalité effroyable en Amérique du Sud et que chaque jour après 3 ans de vie ici, j'arrive pas à m'habituer à ce genre de situation. Et voilà. Merci, au revoir.
Il est 17h, je suis à Morondave, dans l'ouest de Madagascar. Le soleil s'apprête à se coucher, la ville reste éveillée. Ces gens, ces bruits, ces taudis et ces épaves, cette pauvreté qui peut faire le charme d'un pays pour un étranger de passage, touché, bien sûr, par une misère dont il conservera, bien sûr, un souvenir ému. Un cliché, oui. Et quand il racontera ce qu'il a vu, eh bien, il oubliera un peu de l'essentiel, ces mots écrits sur un muret. Avec, assis sur ce mur, une petite fille qui sourit. Et cette inscription, ces mots, vive la vie.
Je suis présentement sous le viaduc Papineau. Et j'ai devant moi un assez grand mur blanc sur lequel se trouve, je crois que c'est le graffiti le plus baveux que j'ai vu de ma vie. C'est un graffiti assez large qui dit tout simplement « Merci d'avoir peinturé, ça fait plus propre ». Benoît Melançon est professeur titulaire et directeur du département des littératures de langue française de l'Université de Montréal. C'est aussi quelqu'un qui aime beaucoup se promener dans la ville et observer autour de lui. Quand on lui a demandé une réflexion sur les murs et ce que les murs ont à nous dire, il a mélangé un peu de ces deux passions-là et il nous a donné ceci.
Imagine que tu sois un partisan des Canadiens de Montréal. Mieux encore, imagine que tu sois un partisan du joueur de hockey le plus populaire de son époque, Maurice Richard, le Rocket, le célèbre numéro 9. Imagine que nous soyons le 17 mars 1955 et que tu te trouves devant le Forum de Montréal, rue Sainte-Catherine-Ouest, avec des milliers d'autres partisans comme toi, réunis par la colère d'avoir vu leur héros suspendu par le président de la Ligue nationale de hockey, Clarence Campbell, pour le reste de la saison régulière et pour toutes les séries éliminatoires. Lève alors les yeux et regarde les murs du forum. Tu y verras afficher une publicité pour le magazine américain Sport. Cette publicité représente Maurice Richard dans une pose identique à celle du Saint-Sébastien de la tradition picturale chrétienne. Tu sauras tout de suite que ce soir-là, Maurice Richard deviendra devant toi un martyr. Imagine maintenant que tu sois Charles Baudelaire et que nous soyons en 1869, au moment où paraît le texte intitulé « Le peintre de la vie moderne », cet article qui incarnerait, pour la première fois de l'histoire, ce qui s'appellera dorénavant la modernité. Tu seras le flâneur par excellence. Et tu écriras que l'amoureux de la vie universelle entre dans la foule comme dans un immense réservoir d'électricité. On peut aussi le comparer, lui, à un miroir aussi immense que cette foule, à un kaléidéoscope doué de conscience qui, à chacun de ses mouvements, représente la vie multiple et la grâce mouvante de tous les éléments de la vie. Ce miroir, ce kaléidéoscope, il réfléchira ce qui t'entoure, des affiches, des publicités, des images et des mots, tous les éléments de la vie. Imagine que tu sois le photographe Victor Blainville, alias Victor le flâneur, le narrateur du fabuleux roman Bastille Tango de Jean-François Villard, paru en 1986. Tu aimeras Jessica, cette femme considérable qui te laisse des petits messages d'amour sur les murs de ton quartier, écrits avec un feutre. Parmi tes fréquentations, il y aura aussi des équipes de jeunes graffiteurs et un étrange personnage, ex-militaire argentin, qui dit s'appeler Oscar. Pourquoi étrange? Toutes les nuits, il couvre les murs de Paris d'affiches décrivant des scènes de torture auxquelles il a collaboré. Sur l'une de ces affiches, tu reconnaîtras Jessica. Imagine que tu décides, toi, de faire le touriste à Bangkok en 1999. Tu reconnaîtras, bien sûr, le logo de McDonald's. Tu seras étonné par une affiche annonçant à gauche « Translation », à droite « Law and Detective ». Tu seras étonné, mais tu comprendras quand même. Par contre, tu ne comprendras rien aux autres signes de la ville, rédigés avec l'alphabet thaï. Et tu seras un brin troublé, car tu ne sauras plus lire. Ce n'est pas une expérience que tu vis souvent. Imagine que tu te promènes de nouveau à Paris, mais le 20 mars 2011, et que tu découvres un graffiti à tes pieds. Pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Le paradoxe te frappera. Tu regardes un trottoir qui te demande pourquoi tu regardes le ciel. Tu accepteras cela comme le propre de la ville, là où les messages clashent les uns contre les autres. Imagine que tu arpentes les rues de ton quartier et que tu y repères d'autres graffitis. Aim low, bows, everyone picks their nose, let it snow, love set you going like a fat gold watch. Tu seras en droit de te demander, devant ces mots dans un anglais parfois approximatif, si tu vis bel et bien dans la deuxième ville française du monde. Heureusement que sur un trottoir de Notre-Dame-de-Grâce, tu pourras aussi lire, le 16 juillet 2011, ce mot unique, lourd de sens, en rouge bien vif, rien. Imagine enfin que tu sois un personnage de l'occupation des sols, le tout bref roman que fait paraître Jean Echenoz en 1988. Tu t'appelleras Paul Fabre, et le corps de ta mère, Sylvie Fabre, recouvrira un mur du quai de Valmy, à Paris. Au pied de ce mur, tu verras un jour s'élever une palissade, parfait support d'affiches et d'inscriptions contradictoires, fait de planches gorgées de colle et d'encre. Puis un nouvel immeuble, masquant progressivement le visage de ta mère. Il te faudra du temps pour le retrouver, mais tu t'y appliqueras. Imagine tout cela, et rappelle-toi que si la ville, ce lieu de toutes nos mémoires, est un livre, ces trottoirs sont notre cabinet de lecture.
C'est tout pour nous cette semaine. Cet épisode de Dans le champ lexical était l'œuvre acharnée de Joanie Larue, le livre de Réjeanne Bouger qu'elle a interviewé. Le livre s'intitule « Les murs qui s'effacent ». Il est paru aux éditions Fides. Caroline Larocalard a suivi des poseurs d'affiches. Sarah Champagne s'est entretenue avec Olivier Pellerin. Et Mathieu Chaudebois, moi-même, j'ai fait un peu de tout. Le topo sur les graffitis n'aurait pas pu exister sans l'aide de Leslie Doumerque, dont c'était l'idée, Caroline Larocque-Allard, Christiane Campagna, Valérian Mazzato, Camille Despringère, Élise-André Guérette, Éléonore Soc-Alkovitch, Pauline de Wüstenberger, Stéphanie Champagne, Alexandre Alaphilippe, Lessia Radeliki, Marie Baget, Tarek Affi, François-Xavier de Calonne, Dominique Charon et André Péloquin. L'émission Dans le champ lexical était une émission de Joanie Larue, Mathieu Charlebois, Sarah Champagne, Caroline Larocque-Allard et Christiane Campagna. Un gros merci à Benoît Melançon pour son texte. Vous pouvez voir tout ce qu'il trouve et photographie en se promenant sur les trottoirs de Montréal, dont quelques murs et quelques graffitis, au trottoirdemontréal.tumblr.com. Trottoir est au pluriel. Pour notre part, nous sommes au danschamplexical.com, sur iTunes et sur Facebook. Revenez-nous la semaine prochaine alors que nous tournerons autour du mot jambon.